Quand j'étais petit, j'observais parfois mon représentant de grand-père passer ses soirées à essayer de vendre des assurances-vie par téléphone, le visage maussade tandis qu'il enchaînait les coups de fil de démarchage dans notre appartement au 9e étage d'un immeuble de Honolulu. Au cours des premiers mois de l'année 2003, il m'est souvent arrivé de repenser à lui, assis à mon bureau dans les locaux chichement meublés de ma campagne sénatoriale, sous un poster de Mohamed Ali posant d'un air triomphal devant un Sonny Liston étendu sur le ring, essayant de me motiver pour passer un énième coup de téléphone afin de récolter des dons. Hormis Dan Shomon et un ressortissant du Kentucky du nom de Jim Coley, que nous avions recruté comme directeur de campagne, notre équipe était essentiellement composée de gamins qui n'avaient pas 30 ans et dont la moitié seulement était payée. Deux d'entre eux étaient encore étudiants en premier cycle. Je me sentais surtout navré pour mon collecteur de fonds, notre seul employé à plein temps, qui devait sans cesse me pousser à décrocher le téléphone pour solliciter des dons. Mes talents de politicien s'amélioraient-ils ? Je n'aurais su le dire. Pendant le premier forum de présentation des candidats en février 2003, j'étais raide et peu inspiré, incapable de plier mon esprit à l'usage des petites phrases toutes faites qu'exigeait ce genre d'exercice. Mais ma défaite face à Bobby Rush m'avait clairement indiqué la voie à suivre pour élever mon niveau de jeu. Il fallait que je communique de manière plus efficace avec les médias, que j'apprenne à exprimer mes idées par des formules incisives. Il fallait que je construise une campagne moins axée sur le contenu politique et plus focalisée sur le lien personnel avec les électeurs. Et il fallait que je récolte de l'argent, beaucoup d'argent. Nous avions commandité plusieurs sondages, qui semblaient tous confirmer que j'avais des chances de l'emporter, mais uniquement à condition de gagner en visibilité grâce à de très onéreux spots télé. Et pourtant, autant ma campagne pour entrer à la Chambre des représentants avait semblé maudite, autant celle-ci a été, pour ainsi dire, bénie des dieux. En avril, Peter Fitzgerald avait décidé de ne pas se présenter à sa propre succession. Carol Mosley Brown, qui aurait pu sans doute s'assurer la nomination aux primaires démocrates pour récupérer son ancien siège, avait inexplicablement choisi de se lancer dans la course présidentielle. La compétition était dès lors entièrement ouverte. Opposé à 6 autres démocrates pour les primaires, j'ai réussi à obtenir le soutien de syndicats et de membres populaires de notre délégation parlementaire, ce qui m'a permis de consolider ma base dans les régions du sud de l'État et dans les bastions progressistes. Avec l'appui d'Emile et d'une nouvelle majorité démocrate au Sénat de l'Illinois, j'ai fait passer toute une série de projets, de la loi rendant obligatoire l'enregistrement vidéo des interrogatoires dans les affaires de crimes passibles de la peine capitale, à l'extension du crédit d'impôt sur le revenu, ce qui a renforcé ma crédibilité en tant que législateur. La nouvelle configuration du paysage politique national jouait également en ma faveur. En octobre 2002, avant même l'annonce de ma candidature, j'avais été invité à prendre la parole sur l'invasion imminente de l'Irak par les États-Unis à l'occasion d'un rassemblement contre la guerre à Chicago. Pour quelqu'un qui s'apprêtait à annoncer sa candidature au Sénat, c'était un sujet politique délicat. Axe et Dan étaient tous les deux d'avis qu'une prise de position ferme et sans ambiguïté contre la guerre me ferait gagner des points aux primaires démocrates. D'autres se montraient plus prudents. Compte tenu de l'atmosphère dans le pays au lendemain du 11 septembre, à l'époque, d'après les sondages, pas moins de 67% des Américains étaient favorables à une intervention militaire en Irak, de la probabilité d'une victoire de l'armée américaine à court terme et du handicap que pouvaient représenter mon nom et mes origines, mon opposition à la guerre risquait de me coûter cher le jour de l'élection. « L'Amérique adore la bagarre », m'avait averti un ami. Après 2 ou 3 jours de réflexion, j'ai décidé que c'était mon premier vrai test. Étais-je prêt à assumer le genre de campagne que je m'étais engagé à mener? J'ai écrit un bref discours de 5 à 6 minutes, satisfait qu'il reflète mes convictions profondes, puis je suis allé me coucher sans le soumettre à mon équipe pour avis. Le jour de la manifestation, plus de 1000 personnes s'étaient rassemblées sur Federal Plaza, sous la houlette de Jesse Jackson. Il faisait froid, le vent soufflait en rafale. Quelques applaudissements étouffés par les gants ont retenti quand j'ai été appelé à prendre la parole, et je suis monté à la tribune. Je voudrais tout d'abord vous dire que, même si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui contre la guerre, l'homme qui se tient devant vous n'est pas opposé au conflit armé en toutes circonstances. La foule a fait silence, se demandant où je voulais en venir. J'ai évoqué le sang versé pendant la guerre de sécession pour préserver l'Union et permettre l'avènement d'une nouvelle liberté, la fierté que m'inspirait l'engagement de mon grand-père au lendemain de Pearl Harbor, mon soutien aux opérations militaires en Afghanistan et ma propre disposition à prendre les armes s'il le fallait pour éviter un nouveau 11 septembre. Je ne suis pas contre toutes les guerres, ai-je dit, mais je suis opposé aux guerres absurdes. Saddam Hussein, ai-je poursuivi, ne représentait pas une menace imminente contre les États-Unis ou leurs voisins, et même un succès militaire en Irak entraînerait une occupation de l'armée américaine pendant une durée indéterminée, qui aurait un coût indéterminé et des conséquences indéterminées. J'ai conclu en suggérant que si le président Bush cherchait vraiment la bataille, il aurait mieux fait de finir le job contre Al-Qaïda, d'arrêter de soutenir les régimes autoritaires et de mettre un terme à la dépendance des États-Unis vis-à-vis des puissances pétrolières du Moyen-Orient. J'ai regagné ma place. La foule m'a acclamé. Au moment de quitter les lieux, j'étais sûr que mon petit discours ne resterait dans les mémoires que comme une note en bas de page. Les médias ont à peine mentionné ma présence à la manifestation. Quelques mois après le début des bombardements de la coalition militaire menée par les États-Unis sur Bagdad, les démocrates se sont retournés contre la guerre en Irak. À mesure qu'augmentait le nombre des victimes et le chaos, la presse a commencé à poser des questions qui auraient dû être posées dès le début. Une vague de contestation populaire a permis à une personnalité quasi inconnue du grand public, le gouverneur du Vermont, Howard Dean, de sortir des rangs pour défier les candidats à la présidentielle de 2004, comme le démocrate John Kerry, qui s'était prononcé en faveur de la guerre. Mon bref discours lors du rassemblement contre l'intervention militaire en Irak prenait soudain des allures prémonitoires et a commencé à circuler sur Internet. Les jeunes recrues de mon équipe de campagne ont dû m'expliquer ce que des machins comme les blogs ou MySpace avaient à voir avec l'afflux de nouveaux bénévoles et les dons citoyens qui survenaient soudain de tous les côtés. Dans mon rôle de candidat, je m'amusais énormément. À Chicago, je passais mes samedis à m'immerger dans divers quartiers, mexicains, italiens, indiens, polonais, grecs, à manger et à danser, à participer à des défilés, à embrasser les bébés et à serrer les mamies dans mes bras. Le dimanche, j'allais dans les églises de la communauté noire. Certaines n'étaient que de modestes devantures coincées entre une onglerie et un fast-food. D'autres étaient d'immenses édifices, avec un parking de la taille d'un terrain de football. J'écumais les zones périphériques de Chicago, des enclaves résidentielles arborées du North Shore où s'alignaient les demeures majestueuses, aux banlieues de l'Ouest et du Sud, dont la pauvreté et les bâtiments laissés à l'abandon évoquaient parfois les quartiers les plus durs du centre-ville. Toutes les deux semaines environ, je partais en visite dans le sud de l'État, prenant parfois seul le volant, mais accompagné le plus souvent de Jeremiah Posdell ou Anita Decker, les deux équipiers talentueux qui supervisaient les opérations de la campagne sur le terrain. Au début, quand je m'adressais aux électeurs, j'avais tendance à ne parler que des questions sur lesquelles je focalisais ma campagne. L'interdiction des exonérations d'impôts pour les sociétés qui délocalisaient leurs activités à l'étranger, la promotion des énergies renouvelables, ou encore l'accès aux études supérieures. J'expliquais pourquoi je m'étais opposé à la guerre en Irak, saluant l'engagement remarquable de nos soldats tout en remettant en cause la décision de lancer le pays dans un nouveau conflit, alors que les opérations entamées en Afghanistan n'étaient pas terminées et qu'Oussama Ben Laden courait encore dans la nature. Peu à peu, cependant, je me suis mis plutôt à écouter ce que les gens avaient à dire. Et plus je les écoutais, plus ils se confiaient. Ils me racontaient ce que ça faisait d'être licencié du jour au lendemain après une vie entière de labeur, de voir sa maison saisie ou de devoir vendre la ferme familiale. De ne pas avoir les moyens de souscrire une assurance maladie et de se retrouver obligé de couper en deux les cachets prescrits par le médecin pour que le flacon dure plus longtemps. Ils me parlaient des jeunes qui s'en allaient parce qu'il n'y avait pas de travail en ville pour eux, ou d'autres forcés d'abandonner leurs études alors qu'ils étaient sur le point de décrocher leur diplôme parce qu'ils n'avaient plus de quoi payer les frais de scolarité. Je réorientais mon discours de campagne, qui consistait de moins en moins en une série de positionnements politiques et de plus en plus en une chronique rassemblant ces témoignages disparates, un cœur de voix américaine venu de tous les coins de l'Illinois. « Je vais vous dire, » expliquai-je. « Au fond, la plupart des gens, peu importe d'où ils viennent ou à quoi ils ressemblent, veulent la même chose. Ils ne cherchent pas à s'en mettre plein les poches. Ils n'attendent pas que quelqu'un d'autre fasse pour eux ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Ce qu'ils attendent, en revanche, s'ils veulent travailler, c'est de pouvoir trouver un emploi qui leur permette de faire vivre leur famille. Ce qu'ils attendent, c'est de ne pas devoir craindre de tout perdre simplement parce qu'ils tombent malades. Ce qu'ils attendent, c'est que leurs enfants aient accès à une bonne éducation, une éducation qui les prépare à cette nouvelle économie, et qu'ils puissent étudier à l'université s'ils ont fourni les efforts nécessaires pour y entrer. Ils veulent se sentir en sécurité face à la criminalité et au terrorisme. Et après une vie entière de travail, ils veulent pouvoir profiter de leur retraite dans le respect et la dignité. Voilà ce qu'ils veulent. Ce n'est pas grand-chose. Et même s'ils ne demandent pas au pouvoir public de résoudre tous leurs problèmes, ils savent au plus profond d'eux-mêmes qu'il suffirait d'une légère réorientation des priorités pour que le gouvernement puisse les aider. Silence dans la salle. Ensuite, je répondais à quelques questions. À la fin de chaque meeting, les gens faisaient la queue pour venir me serrer la main, prendre un exemplaire de notre programme ou discuter avec Jeremiah, Anita ou un bénévole local pour savoir comment ils pouvaient participer à l'effort de campagne. Puis je reprenais la route, certain que l'histoire que je racontais était vraie, convaincu que ce n'était plus moi qui étais au centre de cette campagne, que j'étais devenu une simple caisse de résonance à travers laquelle ils pouvaient prendre conscience de la valeur de leurs propres expériences, de leurs propres mérites, et les partager ensemble. En sport comme en politique, il n'est pas évident de déterminer en quoi consiste exactement ce moment de grâce où l'on atteint son meilleur niveau de jeu. Mais au début de l'année 2004, en tout cas, nous l'avions atteint. Axe nous a fait tourner deux spots télé. Dans le premier, je parlais directement, face caméra, et terminais par le slogan « Yes, we can ». Je le trouvais pour ma part un peu mièvre, mais Axe est aussitôt allé consulter les puissances supérieures, c'est-à-dire Michel, qui a jugé qu'il n'était pas mièvre du tout. Le deuxième spot donnait la parole à Sheila Simon, la fille du très populaire ancien sénateur Paul Simon, décédé des suites d'une opération du cœur quelques jours avant la date à laquelle il comptait annoncer officiellement son soutien à ma candidature. Nous avons diffusé ces spots 4 semaines à peine avant les primaires. Très vite, le nombre de mes soutiens a presque doublé. Quand les 5 journaux les plus importants de l'Illinois se sont ralliés à ma cause, Axe a décidé de changer le montage des spots télé pour y intégrer cette nouvelle donnée, nous expliquant qu'une telle validation avait en général plus de poids pour un candidat noir que pour un candidat blanc. À peu près au même moment, le sol s'est effondré sous les pieds de mon plus sérieux rival aux primaires quand la presse a divulgué les détails de certains documents, jusqu'alors placés sous le sceau du secret judiciaire, dans lesquels son ex-femme faisait état de violence conjugale. Le 16 mars 2004, jour de la primaire démocrate, nous l'avons emporté avec près de 53% des voix. Autrement dit, non seulement plus que les 6 autres candidats démocrates réunis, mais plus que toutes les voix républicaines enregistrées sur l'ensemble de l'Illinois dans leur propre primaire. Je ne me rappelle que 2 moments de cette soirée-là. Les cris de joie de nos filles, sans doute mêlés d'une nuance de frayeur dans le cas de Sacha, alors âgée de 2 ans, quand les canons à confettis ont explosé pendant la fête, et un Axel Rhodes hystérique m'annonçant que j'avais remporté, à une exception près, toutes les circonscriptions majoritairement blanches de Chicago, qui constituaient autrefois l'épicentre des oppositions raciales à Harold Washington. « De là-haut, Harold nous sourit ce soir », a dit Axe. Je me souviens aussi du lendemain matin. Nous n'avions quasiment pas fermé l'œil de la nuit, et j'ai fait un tour à la gare centrale pour saluer les usagers des transports en route vers leur lieu de travail. Il s'était mis à neiger doucement, les flocons étaient aussi épais que des pétales de fleurs, et les gens qui me reconnaissaient et me serraient la main semblaient tous afficher le même sourire, comme si nous avions accompli tous ensemble quelque chose d'incroyable. Un boulet qui vient d'être éjecté d'un canon. Voilà comment Axe décrivait les mois qui ont suivi, et c'était exactement ça. Du jour au lendemain, notre campagne faisait soudain les gros titres de l'actualité nationale. Toutes les chaînes de télé voulaient nous interviewer, et les élus politiques appelaient de partout dans le pays pour nous féliciter. Ce n'était pas seulement dû à notre victoire, ni même à la marge d'écart inattendue avec laquelle nous l'avions emportée. Ce qui intéressait les observateurs, c'était la façon dont nous avions gagné. Le fait que nous avions obtenu des voix dans tous les segments démographiques de la population, y compris dans les comtés blancs du Sud et des régions rurales de l'État. Les experts spéculaient sur ce que ma campagne disait de la question raciale en Amérique. Et, compte tenu de l'opposition que j'avais très tôt exprimée au sujet de la guerre en Irak, sur ce qu'elle laissait peut-être présager des futures orientations du Parti démocrate. Toutefois, nous ne pouvions pas nous permettre le luxe de nous reposer sur nos lauriers. Nous nous sommes hâtés de repartir au combat. Nous avons engagé de nouveaux collaborateurs, plus expérimentés, notamment le directeur de la communication Robert Gibbs, un ancien de la campagne Kerry, originaire de l'Alabama, dur en affaires et à l'esprit particulièrement affûté. Les sondages me donnaient 20 points d'avance sur mon adversaire républicain, Jack Ryan, mais son pédigré m'incitait à la prudence. C'était un ancien banquier qui avait quitté Goldman Sachs pour enseigner dans une école paroissiale auprès d'enfants défavorisés et dont le physique de jeune premier adoucissait les contours de ses idées républicaines très traditionnelles. Heureusement pour nous, tout cela n'a aucunement joué sur le cours de la campagne. Ryan s'est fait éreinter par la presse après avoir tenté de me faire passer pour un gauchiste enclin à dilapider l'argent du contribuable et à augmenter les impôts, exhibant à cette fin toute une série de tableaux dont les chiffres étaient à l'évidence complètement erronés. Puis, il s'est fait clouer au pilori pour avoir envoyé un jeune employé de sa campagne, armé d'une caméra, me suivre agressivement à la trace, jusque dans les toilettes ou quand j'essayais de parler en privé avec Michel et les filles, dans l'espoir de me prendre en flagrant délit au moindre faux pas. Enfin, dernier clou dans le cercueil, la presse a mis la main sur des documents confidentiels liés au divorce de Ryan, dans lesquels son ex-femme affirmait qu'il l'avait forcé à aller dans des boîtes échangistes et à avoir des rapports sexuels devant des inconnus. Moins d'une semaine plus tard, Ryan annonçait son retrait de la course. 5 mois nous séparaient de l'élection générale, et je n'avais soudain plus aucun adversaire. « Tout ce que je sais, » a déclaré Gibbs, « c'est que quand tout ça sera fini, on file à Las Vegas. » Cependant, j'ai continué à battre la campagne à un rythme effréné, prenant souvent la route à la fin de ma journée de travail à Springfield pour partir à la rencontre des électeurs dans de petites villes de la région. C'est au retour de l'un de ces meetings que j'ai reçu un coup de téléphone d'un membre de l'équipe de John Kerry m'invitant à prononcer le discours inaugural de la Convention nationale démocrate qui aurait lieu à Boston à la fin du mois de juillet, et à l'issue de laquelle serait officiellement désigné le candidat du parti à l'élection présidentielle. Je n'éprouvais aucune fébrilité ni aucune inquiétude à cette perspective, ce qui en dit long sur le caractère totalement improbable de l'année que je venais de traverser. Axelrod m'a proposé de monter une équipe pour établir les grandes lignes de mon discours, mais j'ai refusé. « Laisse-moi m'en charger tout seul, je sais ce que je veux dire. » Pendant les jours qui ont suivi, j'ai donc commencé à rédiger mon discours, la plupart du temps le soir, allongé sur mon lit à l'hôtel Renaissance de Springfield, un match de basket à la télé en bruit de fond, couchant mes idées sur un bloc-notes. Les mots me venaient avec facilité. C'était un condensé de la vision politique que je cherchais à exprimer depuis mes premières années à l'université et des conflits intérieurs qui m'avaient poussé dans l'aventure où j'étais à présent embarqué. Les voix se bousculaient dans ma tête. Celle de ma mère, celle de mes grands-parents, celle de mon père, celle des gens que j'avais côtoyés dans mon travail associatif et celle des gens croisés pendant la campagne. Je repensais à tous ces hommes et ces femmes que j'avais rencontrés, qui auraient eu toutes les raisons du monde de devenir amers et cyniques, mais qui s'y étaient refusés, qui n'avaient pas cessé d'aspirer à quelque chose de plus haut, à construire quelque chose ensemble. À un moment, je me suis souvenu d'une expression que j'avais entendue dans un sermon de mon pasteur, Jeremiah Wright, une expression qui résumait parfaitement cet état d'esprit. L'audace d'espérer. Axe et Gibbs rivaliseraient d'anecdotes par la suite à propos des rebondissements qui se sont enchaînés jusqu'à la soirée où j'ai prononcé mon discours à la convention. Les négociations sur le temps de parole qui me serait imparti, 8 minutes au départ négociées à 17 au final, les coupes cruelles que m'ont imposées Axe et son collaborateur avisé John Cooper et qui ont grandement amélioré le texte que j'avais écrit, l'avion retardé pour Boston tandis que la session au Sénat de Springfield s'éternisait, la première fois que je me suis entraîné à parler en lisant sur un prompteur, mon coach Michael Sheehan m'expliquant que les micros fonctionnaient très bien, donc pas besoin de hurler comme ça. Ma colère quand un jeune membre de l'équipe Kerry nous a informé que je devais couper l'une des formules que je préférais dans le texte parce que le candidat désigné avait l'intention de la reprendre à son compte dans son propre discours. « Tu n'es qu'un sénateur d'État », m'a aimablement rappelé Axe, « et il te donne accès à la scène nationale. Je ne trouve pas que ce soit une demande déraisonnable. » Michel en coulisses, tout en blanc, magnifique, qui serre ma main, plonge tendrement ses yeux dans les miens et me dit « Tu as intérêt à ne pas te foirer sur ce coup-là. » Nos fous rires, nos gloussements, comme à chaque fois dans les moments les plus forts de notre amour, et puis l'introduction du premier représentant de l'Illinois au Sénat, Dick Durbin. « Que je vous dise un mot de ce Barack Obama. » Je n'ai regardé qu'une seule fois en intégralité l'enregistrement de mon discours à la convention de 2004, seul, longtemps après l'élection, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé dans la salle ce soir-là. Avec tout ce maquillage, j'ai l'air effroyablement jeune, et je vois bien que je suis un peu tendu au début, que je vais trop vite ou trop lentement à certains endroits, que mes gestes sont un peu empruntés, trahissant mon inexpérience. Et puis, au bout d'un moment, je trouve mon rythme. La foule cesse de rugir et écoute en silence. C'est le genre de moment comme il m'arriverait d'en connaître par la suite, certains soirs magiques. C'est une sensation physique, une émotion qui se propage comme une onde électrique entre vous et l'auditoire. Comme si votre vie et la leur étaient soudain indissociables, collées sur la même bobine de celluloïdes qui se projette dans le temps, en avant et en arrière. Et vous sentez votre voix prendre de l'ampleur, presque jusqu'à se briser, parce que, l'espace d'un instant, vous ressentez la présence de tous ces gens au plus profond de vous. Vous les voyez tous, d'un seul tenant. Vous avez touché au cœur d'un esprit collectif. Vous avez atteint quelque chose que nous connaissons et désirons tous. Le sentiment d'un lien qui abolit nos différences et les remplace par une immense vague de possibilités. Et vous savez que ce moment, comme tous les moments les plus importants de la vie, est éphémère. Et que bientôt, le charme sera rompu.